Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère et d'établir l'office et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne. pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran ce vendredi soir 19 février 2021. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. L'Iran renouvelle son appel à la levée de toutes les sanctions US et dénonce les États-Unis et leurs alliés et européens. Il n'y a pas d'alternative au règlement politique de la crise en Syrie, selon le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Le président vénézuélien menace de répondre avec force aux commandos colombiens. C'était le principal titre de l'actualité. En voici le journal. L'Iran a réitéré ce vendredi 19 février son appel aux États-Unis pour une levée de toutes les sanctions imposées par l'ancien président américain Donald Trump. Téhéran annulera immédiatement ses mesures de rétorsion si les États-Unis lèvent sans condition toutes les sanctions imposées, réimposées ou rebaptisées par Trump, a tweeté le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif. Il a dénoncé également les États-Unis et leurs alliés européens pour avoir tenté de rendre l'Iran responsable de ce qu'ils appellent la non-conformité des nucléaires, alors que c'était leur non-engagement en premier lieu qui avait poussé Téhéran à suspendre ses obligations prises dans le cadre de l'accord nucléaire de 2015. Mohammad Javad Zarif a fait ses remarques dans un tweet jeudi soir en réaction à cette déclaration commune des ministres américains, britanniques, français et allemands des affaires étrangères qui avaient tenu plutôt une réunion virtuelle. Et cette prise de position de Téhéran intervient suite à cette déclaration ô combien importante du guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, qui a souligné « Aujourd'hui, je veux dire un seul mot. Nous avons entendu beaucoup beaucoup de belles paroles, des promesses ont été faites, mais n'ont pas été tenues ou elles ont été violées. Les paroles et les promesses ne servent à rien, avait affirmé mercredi 18 février le guide suprême de la révolution islamique, et de souligner ce que l'Iran exige cette fois, c'est de l'action, et seulement et uniquement de l'action. Si on voit de l'action dans le camp d'en face, alors on réagira par conséquence. La promesse et les paroles ne suffisent plus, a-t-il souligné. Et dans une lettre au Conseil de sécurité de l'ONU, l'ambassadeur américain par intérim aux Nations Unies, Richard Mills, a indiqué que les sanctions internationales levées par la résolution 2231 de l'ONU en 2015, confirmant l'accord nucléaire conclu la même année avec Téhéran, restent levées. L'annonce en septembre de l'administration Trump, qui avait décidé en 2018 du retrait des États-Unis de l'accord, a été, rappelons-le, jugé nul et non avenu par une large majorité des autres membres du Conseil de sécurité. Le représentant permanent de l'Iran auprès de l'ONU, Majid Tarté Lavanchi, a de souligner que la victoire contre la pandémie du Covid-19 nécessite une aide aux pays en développement, une production adéquate et une distribution équitable des vaccins toutes les nations et la levée des sanctions. Majid Tarté Lavanchi, qui s'exprimait lors d'une réunion de haut niveau du Conseil de sécurité sur la COVID-19 et l'accès aux vaccins, ajoutés face à un ennemi commun de l'humanité, un virus qui ne connaît ni frontières, ni nationalité, ni religion, ni race, la coopération concrète et pratique et la solidarité entre toutes les nations sont une nécessité. Évoquant les espoirs créés pour lutter contre le coronavirus par les campagnes de vaccination, le diplomate iranien précise que les efforts mondiaux doivent se concentrer sur la production de masse et la distribution équitable du vaccin anti-Covid. Le ministère russe des Affaires étrangères a souligné que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, avait été examiné avec l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Syrie guerre, Pedersen, des développements de la situation en Syrie. Dans un communiqué, le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué que les deux parties avaient affirmé lors de la rencontre qu'il n'y avait pas d'alternative au règlement politique de la crise en Syrie et dans le cadre d'un processus que les Syriens eux-mêmes conduisent et exécutent sur la base du respect de la souveraineté et de l'unité des territoires de la Syrie, conformément à la résolution 2254 du Conseil de sécurité. Le communiqué a fait savoir que les deux parties avaient échangé les points de vue sur la situation humanitaire en Syrie, insistant sur l'importance de mobiliser une aide globale aux Syriens sans discernement, ni politisation, ni précondition pour contribuer au retour volontaire et digne des réfugiés, des personnes déplacées à l'intérieur. Et toujours à propos de la Syrie, ce pays a annoncé jeudi soir un nouvel échange de prisonniers avec l'entité sioniste. Les deux détenus des Syriens, Mohamed Ahmad Hussein et Tariq Qessab al-Obaidan, des habitants du gouvernorat de Kunetra, ont été libérés dans le cadre des efforts de l'État syrien pour libérer ses citoyens des geôles de l'occupation israélienne, a rapporté l'agence officielle syrienne de Sana. Le président vénézuélien Nicolas Maduro a promis de répondre avec force à la création par la Colombie voisine d'un commando sous prétexte de lutter contre le les guerriers qui, selon Bogota, trouvent refuge dans son pays. Lors d'une conférence de presse à Caracas, Nicolas Maduro a déclaré avoir ordonné aux forces armées du pays de répondre avec force aux déclarations imprudentes du président colombien Iván Duque sur le Venezuela et de nettoyer les barils de non-fusils si Iván Duque ose violer la souveraineté du Venezuela. 8 civils ont été tués dans une embuscade tendue contre un véhicule de transport près de Marcoyer dans le nord du Burkina Faso, a annoncé le gouvernement. Il a précisé dans un communiqué que des inconnus armés avaient mené leurs attaques contre Marcoyer et Toka Bangou dans la région du Sahel, alors que les passagers se rendaient au marché de Dolbel. On a relevé 8 morts et 9 blessés selon un premier bilan du gouvernement. Le gouvernement a indiqué qu'une opération de ratissage était en cours pour retrouver les auteurs de cette embuscade mortelle. Il a invité la population à la vigilance, à une collaboration accrue avec les forces de défense et de sécurité, réaffirmant sa ferme détermination à poursuivre sans relâche la sécurisation de l'ensemble du territoire. Eh bien, chers amis, avec cette dernière nouvelle, notre journal d'information s'achève. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Restez avec nous. Nous allons vous proposer dans quelques secondes notre commentaire politique. L'Iran lance une sévère mise en garde au régime israélien, ce dont nous parlerons dans notre commentaire politique. L'Iran met en garde l'entité sioniste d'une des ripostes sévères au cas où ses conseillers militaires en Syrie seraient visés. En marge de la réunion d'Astana à Sochi, l'assistant principal du ministère iranien des Affaires étrangères, Ali Asghar Khaji, a déclaré dans une interview exclusive à Sputnik que notre présence en Syrie a pour but de lutter contre le terrorisme et si nos conseillers militaires seront visés en Syrie, alors Israël devra faire face à une riposte sévère, a-t-il martelé. Asghar Khaji a souligné que l'envoyé spécial de l'ONU en Syrie, Geir Pedersen, se rendra à Damas la semaine prochaine pour rencontrer des responsables syriens, exprimant son espoir que cette visite conduira à des entretiens utiles avec les autorités syriennes et que le travail du comité constitutionnel se poursuivra. Il a ajouté que les pays parrainant le processus d'Astana soutiennent la tenue des réunions du comité constitutionnel syrien, la poursuite de ses travaux, soulignant que la crise syrienne n'a pas de solution militaire et doit être résolue par le dialogue politique. M. Khaji a noté que le comité constitutionnel est l'un des piliers les plus importants qui peuvent aider à cet égard. Il a également souligné que le sommet d'Astana, qui s'est tenu à Sochi en Russie, a exprimé son opposition aux mesures injustes des États-Unis prises à l'encontre du peuple syrien, tout en déclarant l'Iran poursuivra ses efforts pour aider le peuple syrien autant qu'il peut. Les États-Unis essayent de forcer la Syrie à se plier à des objectifs qu'ils ne pouvaient pas réaliser via la guerre militaire, des sanctions et des pressions économiques sur le peuple syrien, a conclu l'assistant principal du ministre iranien des Affaires étrangères.
Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat. Le président français Emmanuel Macron a suggéré d'inclure l'Arabie saoudite dans le processus des négociations sur un accord concernant le nucléaire iranien. Une position qui, selon de nombreux analystes, a peu d'avenir dans le cadre de ces négociations. En réaction à cette proposition du président français, le porte-parole de la diplomatie iranienne, Saïd Khatibzadeh, a rejeté en effet la participation de toute nouvelle partie, voire tout nouveau dialogue. Pour Khatibzadeh, en effet, l'accord nucléaire iranien est un document international multilatéral qui a été approuvé par la résolution 2231 du Conseil de sécurité et donc ne pourra pas faire l'objet de nouvelles négociations. L'Union européenne aussi a réagi à cette proposition d'Emmanuel Macron et a souligné que cette proposition, en effet, relevait de son opinion personnelle et a réitéré son engagement envers l'accord nucléaire de 2015. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons analyser, en effet, les principaux objectifs et enjeux de cette proposition du président français, de cette logique clientéliste, en effet, d'Emmanuel Macron, concernant la participation, en effet, de Riyad aux négociations sur le nucléaire iranien. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Le président français Emmanuel Macron estime que des alliés régionaux, y compris l'Arabie saoudite, doivent prendre part aux négociations d'un nouvel accord avec l'Iran, relate la chaîne de télévision Al-Arabiya. Le dialogue avec l'Iran sur un nouvel accord nucléaire sera strict. Il devra inclure les alliés de la France dans la région, y compris l'Arabie saoudite, a déclaré il y a une semaine le président français, dont les propos ont été repris par la chaîne de télévision saoudienne Al-Arabiya. De son côté, le ministère iranien des Affaires étrangères a rejeté samedi toute nouvelle négociation sur l'accord nucléaire ou modification de ses participants après que le président français Emmanuel Macron a déclaré que toute nouvelle négociation sur l'accord devrait inclure l'Arabie saoudite. Macron aurait-il oublié l'implication directe de Mohamed Ben Salman dans l'assassinat du journaliste Khashoggi et le massacre des civils au Yémen? L'accord nucléaire est un accord international multilatéral ratifié par la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui n'est pas négociable et les parties sont claires et inchangeables, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Saïd Khatibzadeh, cité par les médias d'État. Les États-Unis se sont retirés de cet accord et l'Europe n'a pas été en mesure de le maintenir. Et s'il y a une volonté de relancer et de maintenir l'accord, la solution est simple. Que les États-Unis reviennent au PGAC et qu'ils lèvent toutes les sanctions imposées sous l'administration Trump, a-t-il affirmé en appelant le président français à faire preuve de retenue. En effet, à peine quelques heures après l'investiture de Biden au poste du président US, les coups de fil de Riyad à Paris se sont soudain multipliés. S'il est vrai que les relations Riyad-Paris sous l'ère de Trump ne sont jamais allées au-delà de colossaux contrats d'armement destinés à massacrer les Yéménites, les choses commencent à changer sous Biden. Certes, le nouveau président américain veut un accord nucléaire balistique avec l'Iran, auquel Téhéran a répondu en mettant le cap sur l'uranium à 90%, mais Biden veut cet accord sans tenir compte de ces milliards de pétrodollars dépensés ces quatre dernières années par Riyad dans le strict objectif de mettre au pas l'Iran. Les propos d'Emmanuel Macron ont suscité une vague de réactions. Les politiciens et les journalistes qui ont invité le président français à aborder en priorité l'affaire de l'invasion du Yémen par l'Arabie saoudite plutôt qu'à envisager d'intégrer Mohammed bin Salman au P5+1. Pour eux, la région est aujourd'hui plus menacée par le wahhabisme que par le programme nucléaire pacifique de l'Iran.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité pour cette émission. Nous avons le plaisir d'accueillir depuis Bruxelles M. Luc Michel, géopoliticien, et depuis Damas, Maître Arnaud Develet, juriste international et analyste politique. Maître Develet, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous et bonjour à Luc Michel.
Alors, dans sa dernière prise d'opposition sur le nucléaire iranien, le président français Emmanuel Macron a suggéré d'inclure ses partenaires régionaux, en l'occurrence l'Arabie saoudite, dans le processus des négociations sur le nucléaire iranien. Une proposition surprenante de la part de la France, d'Emmanuel Macron, car jusqu'à présent, aucun des acteurs, en effet, n'avait avancé une telle proposition. À quelle logique obéit cette proposition de la France d'Emmanuel Macron, Maître Develet?
Écoutez, je pense qu'il faut y voir deux ou voire trois explications possibles. La première, c'est pour des raisons de politique intérieure. Les choses ne vont vraiment pas très bien en France, la France d'Emmanuel Macron. Un déficit démocratique, un rapport officiel, semi-officiel a d'ailleurs été publié il y a quelques jours, qui qualifie la France, je cite, de « démocratie défaillante ». Donc c'est une opportunité pour Macron, quelque part, de rehausser son standing, hein, son statut, de se rendre à nouveau pertinent dans l'arène des relations internationales. Et ça ne mange pas de pain, entre guillemets. Donc, quelle que soit la réaction qui puisse en découler, ça lui permet de continuer à communiquer, puisque c'est ce qu'il fait avant tout, il communique. La deuxième raison, c'est certainement les craintes à Riyad de la nouvelle administration américaine. Et ce faisant, on peut penser que la direction saoudienne a sollicité Paris pour essayer de se présenter comme un partenaire fiable qui puisse faire perdurer, si je puis dire, la relation de longue date qui existe entre les États-Unis et l'Arabie saoudite. On sait que Joe Biden, durant sa campagne, il a répété plusieurs fois qu'il tiendrait l'Arabie saoudite, si je puis dire, à certains standards. Donc c'est une façon pour effectivement le prince héritier d'essayer de se racheter une conduite, lui aussi à peu de frais. En ce qui concerne la proposition d'Emmanuel Macron sur le fond, de toute évidence, elle n'a aucun sens. La première, pour une simple et bonne raison, c'est un accord qui s'inscrit dans la boîte à outils du régime général de non-prolifération nucléaire. Donc, comment pouvoir évoquer l'addition, déjà, comme on dit en anglais, on its face, de d'acteurs régionaux supplémentaires, sans évoquer, avant toute chose, l'arsenal nucléaire du régime israélien. Ça n'a absolument aucun sens. En cela, je comprends parfaitement la réaction du officiel de la République islamique d'Iran qui est de balayer cette proposition, entre guillemets, d'un revers de la main.
Merci pour ces précisions, Maître Develet. Restez avec nous, s'il vous plaît. On va tout de suite se rendre à Bruxelles pour rejoindre M. Luc Michel, géopoliticien. M. Michel, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, bonjour à mon collègue Develet, que j'ai toujours plaisir à retrouver.
Maître Develay a évoqué, a rappelé la position officielle, la réaction officielle de la République islamique d'Iran à la proposition du président français. En effet, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a exhorté M. Macron à s'abstenir de prendre des positions hâtives et mal avisées. M. Khatibzadeh a rappelé que là, il s'agissait d'un accord international multilatéral ratifié, confirmé par la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU. Ceci étant dit, Monsieur Michel, est-ce que cet accord pourrait faire l'objet de nouvelles négociations et faire l'objet de la participation, en effet, des partenaires, des alliés régionaux de la France, dont l'Arabie saoudite?
Il y a deux explications. Il y a tout d'abord une explication qui est purement le sabotage. On a un peu l'impression que toute une série de partis ne veulent pas du retour aux accords de Genève. Et l'Iran a été clair depuis le début. Il n'est pas question de renégocier, il n'est pas question d'accepter de nouveaux partenaires. Ça a été précisé comme étant des positions non discutables, non négociables. À partir du moment où on tente de les réintroduire sur la table, on repousse évidemment l'idée même de remettre en route les accords de Genève. Maintenant, il y a quand même quelque chose de plus profond que ça. Il faut tout d'abord savoir que les États-Unis et la France sortent d'une année de brouille due à la politique de Trump, en particulier en Afrique et en mer Rouge. Et dès lors, actuellement, les Français négocient avec les Américains. Ils négocient pour une nouvelle alliance, si on peut dire. Et dans cette optique, la France doit justifier la voie géopolitique. La France a déjà un axe, elle fait un axe avec les Émiratis. Ce sont deux puissances maritimes. Et la France actuellement se redéfinit, l'impérialisme français. Il y a un livre en particulier qui a théorisé cela. C'est le livre de l'amiral Condefi qui est sorti il y a quelques mois. Et la France veut se repenser comme une grande puissance maritime. On se rappellera qu'elle a le deuxième domaine maritime mondial, avec plus de 10 000 kilomètres, ce qu'on appelle les confettis de l'Empire. Et donc, elle est liée aux Émiratis, qui sont eux-mêmes une puissance maritime émergente à la suite de la guerre du Yémen. Ils sont liés dans un axe Dubaï-Paris. Et bien entendu, la continuité de cet axe, c'est d'en faire un axe Dubaï-Paris-Riyad, c'est-à-dire d'étendre cette alliance maritime à une puissance continentale, puisque la péninsule arabique est en grande partie dominée, à part l'Iran, par les Saoudiens. On ne sait pas très bien ce qui, dans cette affaire, le dispute de la volonté de saboter ou pas. On se rappellera quand même que, quand on négociait les accords de Genève, c'était du temps de M. Fabius. On disait de Fabius qu'il était le représentant d'Israël, venu saboter les négociations à la table de négociation. C'est un mois plus mon idée. Je ne sais pas s'il faut voir des grandes combinaisons géopolitiques. J'ai plutôt l'impression qu'il y a une part de vanité et que cette vanité de Macron est utilisée par des gens qui ne veulent pas d'accord.
Merci infiniment, Monsieur Michel, pour ces éclairages. Restez avec nous. Maître Develay, selon certains observateurs, Monsieur Macron suit un double objectif en avançant une telle proposition. D'une part, satisfaire le client saoudien, qui est l'un des principaux consommateurs du savoir-faire français en matière d'armement, et d'autre part, un moyen, en effet, pour la France de se positionner et de combler en partie le vide stratégique, géostratégique laissé par Washington. Votre commentaire, Maître Develay.
De toute évidence, la France cherche à rester pertinente sur le plan international. Le problème, c'est qu'elle n'a pas les moyens de souveraineté politique nécessaires pour que sa parole porte dans l'arène internationale. Et donc, ce faisant, en étant toujours à la remorque d'intérêts étrangers ou d'intérêts transnationaux purement économiques, d'oligarchies de par leur nature, la politique étrangère de la France, dans son décryptage, est devenue pour beaucoup d'observateurs très difficile à comprendre et donc elle est forcément amenée à être perçue avec méfiance. De toute évidence, c'est avant tout une question, comme le disait Luc Michel, avant tout de garder le client saoudien satisfait, parce que ben, jusqu'à preuve du contraire, les quelques pays qui achètent encore du matériel français incluent dans leur listing l'Arabie Saoudite, ce qui expliquerait peut-être pourquoi effectivement Macron a fait cette déclaration imprudente. Mais encore une fois, je pense que c'est quelque part une illusion de penser qu'il y a une grande stratégie régionale en ce qui concerne la France. La France réagit un peu ad hoc, ponctuellement, dossier par dossier, en essayant toujours de se trouver un strapontin d'urgence pour pouvoir vendre quelques armes ici et là. Mais tant qu'elle n'aura pas développé, redéveloppé, récupéré une politique étrangère cohérente, et donc à partir de là, si elle doit être cohérente, elle doit être avant tout souveraine, basée sur des intérêts objectifs, la France ne pourra pas déployer son influence d'antan.
Merci encore, Maître Develet. Monsieur Michel, concernant la politique étrangère d'Emmanuel Macron et plus précisément sa politique envers le nucléaire iranien, là, il paraît que cette politique contraste non seulement avec cette déclaration imprudente qu'on disait Maître Develet, contraste non seulement avec le droit international, avec la logique même de l'accord nucléaire de 2015, mais aussi avec la politique étrangère de l'Union européenne, parce que là, l'Union européenne a réagi, a estimé que cette déclaration relevait de l'opinion personnelle d'Emmanuel Macron et a réitéré son engagement en effet envers l'accord nucléaire. Alors, dans quelle mesure, par cette déclaration imprudente et surprenante, M. Macron en effet pourrait non seulement se remettre en cause la politique étrangère de la France, mais aussi révéler au grand jour en effet ses écarts avec l'Union européenne?
Le problème de la France en Europe, c'est que la France n'a plus les moyens géopolitiques de la puissance qu'elle voudrait être. Dans les années 60, l'Europe a été construite sur un couple franco-allemand. Mais la réunification allemande qui a recréé une grande Allemagne en Europe a fait qu'elle a déséquilibré ce couple. Et aujourd'hui, face à l'Allemagne, mais aussi face à ce qu'on appelle les Américains, la Nouvelle Europe, les Polonais, les Roumains, etc., qui sont fondamentalement anti-français, la France pèse encore peu. Ce qui intéresse aujourd'hui la politique étrangère de la France, c'est essentiellement de tenir son rang en Afrique, puisque c'est la condition d'un résidu de puissance française. La France est contestée dans son ancien précaré, dans ce qu'on appelait la France-Afrique, mais contrairement à ce que beaucoup d'Africains pensent, la France ne s'est pas effondrée. Elle s'est redéployée en Afrique, elle est particulièrement active, et vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur la mer Rouge. C'est la mer Rouge qui est fondamentale pour les Français. Les Français viennent de s'installer au Mozambique, et ils ont battu économiquement les Américains. Ils sont en train de s'emparer des gisements de gaz du Mozambique. On parle de 14 milliards immédiats de production. Des usines, des investissements industriels sont prévus par les Français. C'est l'arrivée de la France dans une zone où elle n'était pas présente dans la Corne de l'Afrique. À partir de ce moment-là, il faut, pour contrôler le Mozambique et en même temps tenir le rang vis-à-vis des Américains, parce que la percée économique française, elle s'est faite contre les Américains de ExxonMobil. Les Français ont besoin de l'alliance des Émirats. C'est la première chose. Mais derrière les Émiratis, il y a les Saoudiens. Si les Saoudiens n'étaient pas là, les Émiratis ne seraient pas une puissance. Il y a d'ailleurs une rivalité entre MBS et MBZ, Ben Salman et Ben Zayed. À partir de ce moment-là, l'intérêt de Paris, c'est de jouer cavalier seul, c'est pas du tout de tenir compte des intérêts de l'Europe. La France est un peu concernée par, notamment par les intérêts de l'Allemagne en Europe, c'est de renforcer cette présence française en mer Rouge. Ça peut évidemment expliquer cette position. Indépendamment, je vous le dis, moi, personne ne me fait l'idée. J'ai l'impression que pas plus que les Israéliens ne veulent de retour aux accords de Genève, la France n'en peut pas mieux.
Merci encore, M. Michel. Une toute dernière question à Maître Develay. Maître Develay, pourquoi aujourd'hui la voix de la France sur le nucléaire iranien est contestée? Pourquoi elle ne peut pas être entendue, même au sein des alliés européens de la France, d'Emmanuel Macron?
Écoutez, je pense que ça a à voir avec beaucoup de dossiers régionaux dans lesquels la France est impliquée et qui semblent être contradictoires dans la façon dont la France se positionne tant sur les uns que sur les autres. Encore une fois, on en revient toujours à cette absence de grande vision de ce que la France doit être, souhaiterait contribuer. Et force est d'avouer que ces positions contradictoires ont rendu beaucoup d'observateurs méfiants de la France quant à ce qu'elle représente et la façon dont elle est incarnée aujourd'hui. Donc, c'est là, pour faire court, la réponse à votre question. La France a abandonné son désir de puissance en tant que État souverain. Elle s'est remorquée à des lubies idéologiques et des visions utopiques de ce que l'Europe, l'Union européenne devrait être. Luc Michel l'a souligné, la réelle politique l'a rattrapée et elle se retrouve maintenant dans une espèce de dissonance cognitive qui se traduit par effectivement des approches dossier par dossier qui ne laissent pas entrevoir une cohérence d'ensemble.
Monsieur Michel, il nous reste 2 minutes, très rapidement s'il vous plaît. Quelles seront les retombées de cette position contradictoire de la France, de la politique étrangère de la France sur le plan régional et international?
Écoutez, la France est en train de plus en plus de s'isoler. Il y a un phénomène qu'on appelle l'arrogance française, c'est un fameux livre qui est sorti il y a quelques années. C'est un livre qui concerne l'Afrique, mais en fait, la France a cette arrogance vis-à-vis de tous ses partenaires. Elle indispose, on sait que Mme Merkel est particulièrement indisposée par Macron, c'est cela qui se passe. La France, c'est une... Elle est encore dans les rêves. Déjà du temps de Gaulle, elle avait de la peine à tenir son rang. Et depuis les années Mitterrand, les années Chirac, les années Sarkozy, les années Hollande, la France n'a jamais cessé de faire une glissade, une dégringolade géopolitique. Aujourd'hui, le roi est nu. Et les prétentions françaises à une grande puissance, elles sont contestées par la réalité. Ce que la France voudrait imposer des positions qu'elle n'a plus les moyens d'assurer. C'est cela qu'il faut comprendre, que ce soit dans le nucléaire iranien, que ce soit en Afrique, que ce soit dans la guerre du Sahel, que ce soit face à la Russie, la France, c'est une puissance sur le déclin qui n'a plus les moyens d'exister.
Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, Maître Arnaud Develay, juriste international et analyste politique depuis Damas. Je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu apporter ces éclairages à cette émission. Merci beaucoup.
À bientôt.
À très bientôt. Au revoir. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Sous-marin nucléaire d'attaque français Emerald a effectué un passage en mer de Chine, a confirmé lundi la ministre des Armées Florence Parly. L'Emerald, accompagné d'un navire de soutien, a pris le large à 15 000 km des côtes françaises dans le cadre de la mission Marianne, qui depuis septembre 2020 consiste à patrouiller dans les zones Indo-Pacifique. Quand on connaît la situation financière française, fait remarquer le reporter de guerre Philippe Hugon, et le coût de ce genre d'opération, on se demande pourquoi la France se permet-elle cette demi-provocation. Écoutons à ce sujet l'analyse de Philippe Hugon, analyste politique et reporter de guerre.
Moi, je suis très surpris quand même que l'on puisse lancer ce genre d'opération, puisqu'il faut savoir que le territoire français le plus proche de la Chine, c'est la Nouvelle-Calédonie. C'est un peu plus de 7000 km. Quant à la Polynésie, c'est un peu plus de 10000 km. Donc, je ne vois pas pourquoi la France envoie un sous-marin. Alors que la France envoie un sous-marin dans ses eaux territoriales, en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie, on peut comprendre. Maintenant, c'est le chemin par lequel passent ces bateaux ou ces sous-marins pour rejoindre le Pacifique. Alors, quand on sait que... quand on connaît la situation financière française et ce que coûte ce genre d'opération, moi, je ne comprends pas vraiment pourquoi... On se permet de faire cette, je dirais, cette demi-provocation, parce qu'en France, on n'a plus les moyens de faire de la vraie provocation, hein. On peut faire que de la demi ou du quart de provocation parce qu'on n'a plus les moyens financiers. Aujourd'hui, moi, je suis très choqué de tout cet argent dépensé pour rien. Comme le fait de vouloir lancer un deuxième porte-avions. Eh bien, on ferait mieux de monter les salaires chez Renault et de donner des aides aux sans domicile fixe en France que de dépenser des sommes folles dans des armes qui ne servent à rien. Et on voit bien aujourd'hui le coronavirus, qui est un virus qui a été lâché délibérément, hein, pour écraser les populations, hein, pour faire taire le monde avec ça. Hein. Eh bien, sans compter qu'avec ce genre de virus, vous n'avez pas besoin d'armes pour les diffuser, les oiseaux et les êtres humains s'en chargent très bien. Donc, moi, je trouve que c'est une politique étrangère insolente et insultante, insolente vis-à-vis d'un certain nombre de pays qui sont quand même partenaires commerciaux de la France, comme c'est le cas de la Chine, et insolente par rapport aux gens qui meurent dans les rues en France, car il faut savoir que depuis 10 ans, le nombre de gens qui vivent dans la rue a littéralement explosé. Donc, alors sur un plan géopolitique ou géostratégique, sincèrement, nous n'avons pas les moyens militaires, politiques, financiers, économiques. On ne représente plus rien. La France n'est rien du tout. Donc, je ne comprends pas vraiment cette politique étrangère menée par la France. Et malheureusement, on a des gens au pouvoir qui sont incompétents, irresponsables, qui font un petit peu n'importe quoi. Et c'est assez surprenant d'ailleurs que les hauts dirigeants militaires ne soient pas plus rigides vis-à-vis de ces politiques et acceptent les politiques lancées comme en Chine. Et sans compter que la Chine n'est pas un ennemi, ce n'est pas, on n'a plus d'ennemis dans le monde. Donc je ne comprends pas bien tout cet argent dépensé, on ferait mieux de le mettre dans la recherche médicale, parce que dans les années qui viennent, on va vraiment avoir besoin de la recherche médicale pour faire face aux nouveaux défis de tous ces virus, de ces bactéries qui risquent d'être mis au point par des groupes terroristes ou des maîtres chanteurs, comme on peut le voir dans certains cas. Donc, je pense que c'est vraiment un gaspillage incroyable d'énergie d'énergie humaine pour pas grand-chose. Et moi, je le rappelle, hein, la France ne représente plus rien du tout, mais ce qui s'appelle rien du tout sur un plan mondial. Aujourd'hui, les pays qui comptent, ce sont les États-Unis qui comptent encore un peu, la Russie et la Chine. C'est les trois plus grandes puissances mondiales. Et on peut même aujourd'hui même en ajouter une quatrième avec l'Inde, mais la France ne représente rien du tout. Donc, moi, toutes ces provocations comme ça qui ne veulent rien dire, je trouve ça complètement idiot que l'on puisse se lancer dans des politiques aventureuses comme celle-ci et qui sont particulièrement insultantes envers les Français qui aujourd'hui connaissent des difficultés absolument énormes et dont ces difficultés ne vont faire que croître dans les mois et les années qui viennent. Donc je pense que le gouvernement français devrait revoir sa copie afin qu'on n'ait plus ce genre de politique aventureuse.
Stratfor réchauffe les douleurs fantômes de l'Empire ottoman. Habituellement, les gens entendent plus volontiers ce qui est agréable à entendre. C'est bien connu. Comme l'illustre parfaitement le pronostic de l'agence militaire américaine Stratfor, présenté sur la chaîne nationale turque TR1, selon lequel, d'ici 2050, la Turquie renforcera significativement sa présence dans plusieurs régions. D'après sa carte, d'ici 2050, la Turquie élargira considérablement la zone de son influence dans plusieurs directions à la fois. Ainsi, les analystes ont prédit qu'Ankara parviendra à renforcer ses positions dans plusieurs régions au sud de la Russie, notamment en Crimée, au Kouban, en Kalmoukie, dans la région d'Astrakhan et dans les républiques du Caucase du Nord. La Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, plusieurs territoires du Kazakhstan, de l'Ouzbékistan et du Turkménistan, ainsi que des territoires de la Grèce et des républiques autoproclamées du Donbass devraient se retrouver sous l'influence turque. De plus, d'après les experts, il faut s'attendre au renforcement des positions de la Turquie dans les pays du Golfe Persique, en Égypte et en Libye. En novembre 2020, le président turc Recep Tayyip Erdogan a parlé du leadership de la République dans le nouvel ordre mondial. Selon lui, son pays possède les capacités nécessaires pour élargir sa puissance et son influence dans le nouvel ordre politique et économique. En juin 2020, il a été annoncé que l'état-major des forces armées turques élaborait un plan d'invasion en Grèce et en Arménie. Le premier a été baptisé Çakabey, en hommage à l'émir de Seljuk Çakabey, dont la flotte a conquis au XIe siècle en mer d'Égée les îles Lesbos, Chios, Samos et Rhodes. Le second a été baptisé Altay, en hommage au général Fahreddin Altay, qui commandait l'un des corps pendant la guerre turque pour l'indépendance. Selon les prévisions des experts américains, entre autres, le Turkménistan, les régions occidentales du Kazakhstan et de l'Ouzbékistan devraient se dissoudre de la Turquie. C'est loin d'être un secret pour les habitants de l'Asie centrale que leur région joue un rôle majeur dans la construction de ce qu'on appelle le monde turc, lequel, d'après Ankara, doit représenter au moins un espace économique, culturel et militaro-technique commun à défaut d'être un État allié. À cet effet, la Turquie a mis en place tout un réseau d'associations d'intégration, de Turksoy, donc Organisation internationale pour la culture turque, aux fondations pour la réalisation de projets sur le territoire du Grand Touran. Il n'y aura rien de mal dans l'aspiration des peuples parents de développer leur coopération si l'on ne savait pas comment le monde turc est perçu par le gouvernement turc derrière les multiples arbres d'attraction sous la forme d'investissements, de coopération militaire, de festivals et d'établissements scolaires, on oublie facilement la forêt du néo-ottomanisme. Par ailleurs, encore au début des années 1990, la Turquie a exprimé le désir de diriger les anciennes républiques de l'URSS. Le premier ministre turc Süleyman Demirel déclarait que son pays avait une perspective unique de déterminer l'avenir politique des républiques musulmanes de la CEI. Alors que l'ancien patron de l'Agence turque de coopération et de développement, donc la TIKA, spécialement créée à cet effet, Abdulhaluk Çay disait que la République turque était un successeur du grand empire ottoman et devait créer une alliance avec l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan et le Turkménistan. Ce qui présente sous un tout autre angle les multiples exemples d'usage de la soft power par Ankara dans les pays d'Asie centrale. Les autorités des pays de la région pourraient découvrir soudainement que des milliers de leurs militaires, agents, soldats, imams, transmetteurs, ingénieurs et enseignants formés en Turquie sont devenus turcs. Naturellement, Recep Tayyip Erdogan a apprécié les pronostics de Stratfor, tout comme les stratèges américains qui aiment bien créer des fantômes d'une grande Asie centrale, d'un grand Moyen-Orient, et ainsi de suite, tout en réchauffant les douleurs fantômes d'anciens empires. Mais vont-ils plaire aux pays d'Asie centrale qui ont été si facilement rayés de la carte du monde par ces prévisionnistes ?